Merci beaucoup à nos musiciens qui nous ont si bien accompagnés et qui nous permettent vraiment de nous approcher du Seigneur de manière riche et bienfaisante. Nous voulons maintenant nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Nous avons commencé une petite réflexion sur le thème « Tenir ferme ». Nous avons besoin de fermeté dans notre foi et nous voulons aujourd'hui parler des ressources de la fermeté. Et je vous invite à lire un texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, nous lisons à partir du verset 19. Hébreux 10, à partir du verset 19. Mes frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Verset 32, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand et douloureux combat, d'une part exposé en spectacle par les opprobres et les tribulations, d'autre part vous rendant solidaire de ceux qui subissaient ce traitement. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui a été promis. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. L'exhortation donc à la fermeté, à tenir ferme. Comment donc tenir ferme? Quelles ressources pour rester debout, malgré nos petitesses et notre fragilité, face à des événements qui parfois nous bousculent fort? Comment aussi, à l'heure de l'éphémère et des produits jetables, mettre en œuvre une fermeté qui tient la route, qui tient la distance sur la durée? Nous avons vu dimanche dernier, avec l'exemple de Job, la grandeur et l'importance de la fermeté de notre vie devant Dieu. Elle est un langage qui nous permet de dire un attachement authentique au Seigneur, dans la facilité ou dans l'exigence. Et le Seigneur l'apprécie énormément. Mais comment concrètement tenir ferme? C'est une vraie question. Nous ne sommes pas bâtis de marbre. Ce qui survient nous touche, nous affecte. Il suffit de si peu parfois pour que, même sans que nous y prenions garde, nous soyons déstabilisés, découragés. Une parole, une difficulté, une impression parfois suffit à nous mettre en difficulté. Nos dispositions intérieures ont aussi leurs limites. Parfois on voudrait bien réaliser un objectif, mais c'est tellement plus facile de reporter que d'affronter. Et puis il nous arrive d'être bien partagés intérieurement. On veut d'un côté, on ne veut pas de l'autre. Et puis autour de nous, tout change, rien ne dure. L'air du temps nous porte beaucoup plus au zapping qu'à la constance, à l'immédiateté qu'à ce qui se construit patiemment. sans compter le nombre de figures en qui l'on croyait, mais qui déçoivent ou qui craquent. Alors comment concrètement demeurer ferme, tenir ferme? Quelles ressources pour rester debout? Le sujet est vaste. Je vous propose de partir d'une exhortation particulière du Nouveau Testament, celle que nous avons lue, et qui concerne donc les chrétiens à qui est adressée cette épître aux Hébreux. Ces chrétiens subissaient dans leur entourage des pressions qui s'accentuaient, et ils ont été tentés, pour avoir la paix, de revenir sous le parapluie du judaïsme, qui était une religion reconnue, contrairement à la foi chrétienne. Et on imagine ces chrétiens qui ont subi, nous l'avons lu, bien des pressions, des difficultés, se diront « on a besoin de calme ». Oh, on restera fidèle au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac et de Jacob, tout en étant à l'abri du judaïsme beaucoup mieux reconnu que la foi chrétienne. Voilà ce qu'ils pouvaient se dire. Mais en réalité, cela signifiait abandonner leur foi spécifique en Jésus. Cela voulait dire nier l'œuvre la plus grande du Dieu de la promesse, nier la manifestation suprême et inouïe de l'amour de Dieu manifesté justement en Jésus-Christ. Alors l'auteur de l'Épître voit le danger et les invite à ne rien lâcher. Restez debout, persévérez, vous avez besoin de persévérance, leur dit-il. Mais il leur indique aussi des ressources pour tenir. Et il y a donc là un bon message à recevoir aujourd'hui encore pour nous. Là où peut-être nous pouvons ici ou là nous sentir un peu vacillants, ou découragés, ou craintifs, ou prêts à baisser les bras dans un domaine ou dans un autre. Suivons donc les versets 19 à 25. Le premier mot de l'exhortation donnée par l'auteur de l'Épître donne le ton et assure la base. « Ainsi donc, dit-il, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire de Dieu par le sang de Jésus, accès que Jésus nous a ouvert. Nous avons un grand prêtre établi sur la maison de Dieu. » L'auteur de l'Épître résume ici en quelques mots des enseignements qu'il vient de développer très longuement auparavant, mais la base est claire. Pour tenir ferme, il nous faut nous appuyer sur ce que Dieu nous a donné, sur ce que nous avons par la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas réduits à trouver en nous-mêmes les ressources de notre fermeté, à la seule force de notre volonté. Nous pouvons nous appuyer sur ce que nous avons, sur ce que Dieu est pour nous, sur ce qu'il nous a donné, sur ce qu'il veut être pour nous. Toute la Bible nous parle ce langage lorsqu'il s'agit de tenir ferme. Considérez ce que vous avez. Ne partez pas de ce que vous devez être, ne partez pas de l'exigence qui est devant vous, mais regardez d'abord à ce que Dieu vous donne, ce que Dieu vous assure. Nous ne sommes pas les mains vides lorsqu'il s'agit de tenir ferme. Nous ne sommes pas sans appui. Nous ne sommes pas sans ressources, bien au contraire, nous avons. Quelles sont ces ressources que nous avons? La première est l'accès auprès de Dieu. Nous avons l'assurance, dit l'auteur, d'un plein accès à Dieu. Quand on a besoin de soutien ou de l'intervention de quelqu'un de haut placé, c'est parfois une vraie course d'obstacles. Certains d'entre vous le savez bien. Quand il faut une réponse administrative ou un rendez-vous médical, quelle course parfois, que d'obstacles. Quand on a besoin du soutien de Dieu, rien de tout cela, c'est libre accès. Nous avons un libre accès. Les obstacles pourraient exister, il y a la distance entre sa grandeur et ce que nous sommes. Il y a la réalité de nos péchés qui font obstacle, oui. Ces obstacles pourraient exister, mais grâce à Jésus, tout cela est ôté. C'est par son sang que nous avons ce libre accès auprès du Père, par sa mort, par le pardon rendu possible à quiconque s'approche de Dieu par lui. Ce libre accès, c'est un accès par lequel nous pouvons vraiment entrer. Il est question d'un chemin vivant qui est ouvert, un chemin dans lequel on peut marcher, un chemin pour la relation. Cet accès nous ouvre toutes les ressources de soutien de Dieu. Nous pouvons nous approcher de Dieu pour être secourus. Approchez-vous du trône de la grâce, disait l'apôtre, l'auteur précédemment, pour être secourus dans votre besoin. Nous avons un libre accès, l'assurance d'un libre accès. Mais nous avons précisément, justement, l'assurance d'un libre accès. Et le mot qui est employé pour parler de cela, de l'assurance, parle d'une pleine confiance qui peut nous habiter, d'une certaine hardiesse même qu'on peut avoir, tellement on est sûr de la chose. Cette hardiesse, ce n'est pas l'assurance de quelqu'un qui a du culot ou de quelqu'un qui brave tout, mais c'est plutôt la liberté dans la confiance de celui qui se sait accepté, qui se sait bienvenu, qui se sait aimé. Comme un enfant qui sait vraiment l'amour total de ses parents, même si son père, dans sa vie professionnelle, ne reçoit que sur rendez-vous, lui, parce qu'il est aimé, il peut venir sans rendez-vous, avec assurance. Il sera toujours accepté. Nous avons l'assurance d'un plein accès. Voilà une première base qui nous est bien assurée. Une relation ouverte où nous sommes en confiance sur toute la ligne. Mais qu'est-ce qui nous permet d'y avoir recours? C'est parce que nous avons, continue l'auteur, nous avons un grand prêtre établi sur la maison de Dieu. Le grand prêtre, c'était celui qui offrait les sacrifices, qui permettait donc de s'approcher de Dieu. Et l'auteur de l'Épître a démontré dans tout ce qui précède que Jésus est pour nous ce grand prêtre parfait qui a accompli tout ce qui était préfiguré par les rites de l'Ancien Testament, qui dépasse toutes les insuffisances aussi du culte de l'Ancien Testament, ces rites qui devaient être répétés sans cesse. Lui qui a accompli une fois pour toutes le sacrifice unique, indépassable, qui garantit l'accès auprès du Père. Il s'est offert lui-même pour porter les péchés d'un grand nombre, dit l'auteur. Et l'auteur continue en soulignant qu'après cela, ce grand prêtre, non seulement s'est donné, mais ce grand prêtre s'est assis à la droite de Dieu. Son œuvre maintenant est accomplie. Il l'a fait pleinement valoir. Et il attend désormais que tous ses ennemis deviennent son marchepied, ce qu'il manifestera lorsqu'il reviendra du ciel pour tous ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Nous avons un grand prêtre établi sur la maison de Dieu. La fermeté, la solidité, ce qui tient, ce qui est décisif pour le présent et pour l'éternité, tout cela est de son côté, tout cela est en lui. Et il est notre grand prêtre, celui qui s'est donné pour nous, celui qui intercède pour nous, celui qui reviendra pour nous aussi. Bien des choses peuvent vaciller pour nous, lui demeure, lui tiendra. Et si peut-être nous déméritons même, lui demeure. Notre recours, toujours prêt à nous secourir, celui qui pardonne, celui qui purifie notre conscience, nous dit l'auteur, et qui continuera son œuvre en nous. Nous avons un grand prêtre en Jésus, un grand prêtre parfait. Et tout cela, il l'est pour nous après avoir parfaitement assumé notre expérience humaine et partagé tout ce que nous vivons. Et c'est un autre point que l'auteur a souligné à propos de Jésus comme notre grand prêtre. Il a participé à la chair et au sang de notre humanité, dit-il au chapitre 2. Il n'a pas eu honte de nous appeler frères de cette façon forte, en assumant notre condition, en assumant ce que nous sommes. Et c'est pourquoi nous pouvons venir à lui tel que nous sommes. Nous n'avons pas besoin d'attendre d'être autre chose. Lui qui a tenu ferme, sans péché, au cœur de nos limitations, sera toujours là pour nous venir en aide. Voilà celui qui nous accompagne dans nos combats, nos incertitudes, nos essoufflements d'aujourd'hui, nos résolutions aussi. Nous avons un grand prêtre établi sur la maison de Dieu. Quand on a du mal à tenir, on dit facilement « je ne peux pas, j'y arriverai pas ». Notre texte nous invite à remplacer ce refrain un peu défaitiste par autre chose qui offre bien plus de perspectives, à dire « nous avons cet accès, nous avons ce grand prêtre ». Et cet indicatif est là, fondamental, la base de tout. Laissons-le prendre sa place dans notre vie. Laissons-nous fortifier par ce fondement qui nous est donné. Nous avons. Une fois cet indicatif affirmé, l'auteur va un peu plus loin et il va donner trois impératifs, trois commandements. Fort de ce que nous avons, voilà ce qu'il faut faire désormais. Et c'est intéressant de voir cette structure que l'on retrouve souvent dans la Bible. La Bible ne se contente pas de nous dire « voilà ce qu'il faut faire » de l'impératif, mais elle dit très souvent d'abord un indicatif « voilà ce que vous avez » pour ensuite fonder les impératifs. Quels sont-ils ces impératifs maintenant de la fermeté, ces impératifs pour tenir ferme ? Le premier impératif se trouve au verset 22. « Nous avons un libre accès et un grand prêtre établi. Approchons-nous donc du Seigneur d'un cœur sincère. » Les bases solides que nous donne l'œuvre et la personne de Jésus nous invitent à une démarche, nous invitent à chercher auprès de Dieu les ressources pour tenir ferme, puiser en lui le renouvellement dont nous avons besoin pour effectivement tenir bon. Autrement dit, il n'y a pas d'automatisme pour tenir ferme. C'est dans la démarche vers Dieu que nous serons soutenus et renouvelés. Il ne s'agit pas de savoir que nous avons un accès, un recours. Il nous faut nous approcher. Il nous faut entrer dans la relation. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement que d'entrer en relation, que de nous approcher de Dieu en vue d'acquérir la fermeté? Cela veut dire d'abord, me semble-t-il, que nous pouvons chercher recours auprès de Dieu lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous sommes désarçonnés ou dépassés par une situation. Approchons-nous du trône de la grâce, disait l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, pour être secourus. Nous avons cette possibilité de nous approcher pour être secourus. Le modèle biblique pour cette approche en vue d'être secouru, fortifié, se trouve dans les psaumes. Je crois que c'est cela, là où l'on découvre vraiment ce qu'est s'approcher de Dieu et de trouver la force de Dieu. Dans les psaumes qui sont des prières de croyants en toutes sortes de situations, dans tant de situations, ils viennent auprès de Dieu, ils prient, ils se fortifient en Dieu, ils s'apaisent en sa présence et réussissent à tenir ferme malgré leur situation. Quelques petits mots de réflexion concernant ces psaumes. Qu'est-ce qui permet de s'affermir lorsque l'on a besoin de Dieu en considérant la façon dont les psaumes nous sont donnés? Les psaumes nous montrent l'importance d'une bonne vision de Dieu pour pouvoir s'affermir en Dieu. C'est souvent en rappelant qui est Dieu pour nous et en priant cela personnellement que nous trouvons des ressources face à ce que nous traversons. C'est ça ce qu'illustre les psaumes en tellement d'endroits. Et ce qui est intéressant, c'est de voir combien il y a dans les psaumes une théologie, une conception de Dieu qui est très riche, très diversifiée. Cette théologie se dit dans les psaumes avec des mots très simples, mais des mots qui comptent, des mots qui nous rejoignent, des mots qui nous fortifient dans ce que nous vivons. Tu es mon rocher. Tu es ma forteresse, tu es mon abri, tu es mon berger, mon appui, ma délivrance, ma lumière, mon salut, mon aide, mon libérateur, le soutien de mon âme. Tout cela, on le trouve dans les psaumes. Tout cela, c'est la théologie des psaumes. Tu pardonnes, tu relèves, tu fortifies, tu conduis, tu n'abandonnes pas. Une théologie aussi en forme de témoignage. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Ou encore, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il faudrait rassembler tout ce que les psaumes nous disent sur Dieu. La liste est vraiment bienfaisante et c'est une liste 100% applicable à la vie de tous les jours. Mais cela nous dit l'importance d'avoir une juste, une vraie vision, une riche vision de ce qu'est Dieu pour nous. Et ça nous dit l'importance de nous approcher justement de Dieu pour saisir dans nos circonstances très particulières ce que cela va signifier pour nous. Nous approcher de Dieu donc en mesurant vraiment ce qu'il est pour nous. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, disait le prophète Daniel. Et c'est vraiment ce que les psaumes nous invitent à faire aussi. Mais en même temps, deuxième petite remarque sur les psaumes nous montrent qu'il ne suffit pas d'une formule rapidement prononcée pour être affermi. Il ne suffit pas juste de dire « Oui, le Seigneur est ma force » pour avoir de la force. On voit parfois qu'il faut du temps, le temps de la prière, le temps de l'appropriation de ces réalités. Dans plusieurs psaumes, quand on s'approche de Dieu pour essayer de dire « Oui, ce qu'est le Seigneur pour nous », il y a des va-et-vient, des avancées, des retours, il faut s'y reprendre. Il faut du temps parfois pour s'affermir. Ça ne vient pas d'un coup. Parfois ce sera juste une pensée sur Dieu qui va nous fortifier, nous donner vraiment ce qu'il nous faut. Parfois c'est le simple fait d'avoir passé du temps avec le Seigneur qui va rendre plus fort. Il faut du temps pour être affermi, prendre le temps. Jésus lui-même a dû prier 3 fois à Gethsémané pour être fortifié. Mais la prière bien nourrie est irremplaçable pour être affermi et donc pour tenir ferme. Approchons-nous donc, libre accès, approchons-nous donc pour chercher ces ressources de fermeté dans ce Dieu si riche, dans ce Dieu qui est tant pour nous. Mais revenons à l'Épître aux Hébreux, car notre texte, il faut le remarquer, offre une perspective assez large en nous invitant à nous approcher de Dieu. Approchons-nous, dit-il, d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. L'invitation ici est générale, c'est une invitation globale à nous approcher de Dieu. Elle n'est pas liée à un contexte plus particulier où nous aurions besoin de secours. Et cela nous dit que les ressources de la fermeté, elles se gagnent aussi dans la régularité. Elles se gagnent aussi dans la régularité. Ce qui nous rend ferme, c'est d'être bien relié au Seigneur, de manière générale, pas juste quand on a besoin de son aide ou d'un secours plus particulier. Être bien relié au Seigneur. Les gens forts dans la vie, ce sont souvent les gens qui sont bien reliés à d'autres. Et c'est vrai aussi pour nous, avec le Seigneur. Il nous faut donc aller plus loin que nous approcher de Dieu simplement au moment où nous avons besoin de fermeté. Une voie meilleure existe. Sois bien relié au Seigneur de manière générale dans ta vie et tu te découvriras plus ferme. Tu te découvriras plus ferme si tu es bien relié au Seigneur de manière générale. Et j'aimerais nous encourager à prendre les choses de ce côté-là. Vivons bien reliés au Seigneur de manière générale et nous pourrons aborder, en étant déjà plus fermes, les situations exigeantes que nous pourrons rencontrer. C'est la force d'une approche régulière. Ce lien régulier se développe sur plusieurs plans. Il n'est pas focalisé sur la seule idée d'être ferme. Le verset 22 nous invite à cultiver dans notre approche de Dieu la sincérité de cœur. Approchez-vous d'un cœur sincère. Lorsque vous approchez de Dieu, veillez vraiment à cela. Ouvrez-vous sincèrement devant le Seigneur. Vivez quelque chose d'authentique. Il nous invite aussi à développer une foi pleine et entière. Lorsque vous approchez de Dieu, mesurez ce qu'il est pour nous. prenez le temps de lui faire confiance, de lui dire votre confiance vraiment, de repasser en votre cœur les bases de cette confiance. Approchez de vous, de Dieu, avec une conscience purifiée. Ça signifie aussi que nous devions être prêts à faire le point régulièrement devant Dieu de ce que nous sommes. Approchez-vous de Dieu également avec des actes concrets. C'est probablement ce qui est visé lorsqu'il est dit « Approchez-vous le corps lavé d'une eau pure ». Le corps renvoie probablement ici à nos actions qui doivent être aussi pures que les membres de ceux qui se contentent de se purifier rituellement par des ablutions. Plusieurs registres donc différents de notre vie que nous sommes invités à travailler régulièrement devant Dieu. Et c'est ainsi que la fermeté s'installe, s'acquiert, se renforce quand on travaille régulièrement ces différents domaines. Purifier, renouveler nos motivations en présence de Dieu, nous fortifier dans la foi, dans ses promesses, confesser notre péché, présenter à Dieu nos actes quotidiens pour qu'il les purifie, pour qu'il les transforme. Approchez-vous, premier impératif. Deuxième impératif, après l'indicatif qui rappelle ce que nous avons, confessons notre espérance sans fléchir. Les traductions peuvent un peu varier ici, mais l'original nous invite à maintenir la confession de notre espérance bien droite. Maintenez la confession de votre espérance bien droite. Confesser ici, ça ne veut pas dire reconnaître notre péché. Mais confesser, c'est bien plus positivement affirmer ce que nous croyons. Et l'auteur nous invite à maintenir cette confession de notre espérance et à la maintenir bien droite. Alors, est-ce que c'est une invitation au témoignage, à la confession à l'extérieur, à la proclamation de ce que nous croyons ? Dans le contexte, c'est d'abord pour nous. C'est d'abord pour nous qu'il faut maintenir ce que nous confessons. Les destinataires de la lettre étaient tentés de laisser tomber leur référence à Jésus dans leur foi, pour avoir la paix, pour être plus tranquille, pour gagner une certaine sécurité matérielle dans leur environnement. Et donc, c'était d'abord pour eux-mêmes qu'ils avaient besoin de maintenir leur confession en Jésus, de redonner force et valeur à ce qu'ils croient. Ils devront être prêts, c'est certain, à tenir cette position ensuite vis-à-vis de leur entourage. Mais c'est d'abord en eux que cela doit être affermi. Car leur certitude penche dangereusement. Elle menace de s'écrouler. Et c'est pourquoi l'auteur leur dit, il faut redresser tout cela. Et il faut vraiment maintenir la confession de votre espérance bien droite. Redonnez force à ce que vous croyez, à ce qui vous a tenu jusqu'ici. Et c'est pour cela que l'auteur de l'Épître a écrit toute cette lettre et a développé une vision forte, une vision large de Jésus, de son œuvre. C'est pour cela qu'il a montré que Jésus a accompli tout ce qui avant lui n'était que préparatoire. Et ce qui voulait dire qu'on ne pouvait pas revenir à ce qui était avant sans régresser. C'est pour ça qu'il a insisté sur la pleine suffisance de Jésus, au-delà de toutes les figures de l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il a souligné l'œuvre définitive, insurpassable, accomplie par Jésus, une fois pour toutes. Mais il a eu soin aussi de présenter Jésus dans sa pleine humanité, comme un modèle, comme une inspiration, tout en étant prêt à nous venir en aide. Il a été fidèle dans tout ce qu'il a fait, même s'il a traversé, comme nous, des moments où tenir ferme a été un immense combat. Il a fait alors de son obéissance une offrande, et le Père l'a exaucé en le ressuscitant des morts. Et c'est ainsi qu'il est devenu l'auteur d'un salut éternel et la clé de toute l'œuvre de Dieu. Tout cela, c'est essentiel de le garder. Tout cela, c'est essentiel de s'y accrocher, de le confesser, de lui donner toute sa force en nous. Et nous avons aussi à le faire. C'était vrai pour eux au premier siècle, dans les circonstances. C'est vrai pour nous aujourd'hui encore. Aujourd'hui, c'est peut-être plutôt le relativisme qui nous menacerait. Pourquoi Jésus plutôt qu'un autre ? Autour de nous, on a horreur des convictions affirmées, trop affirmées. Elles sont suspectes. La règle qu'on voudrait que tout le monde applique, c'est de s'ouvrir à tout. Mais si tout est identique à tout, rien n'a de valeur. Et il nous faut résister à cette dissolution et confesser. Vraiment, rester accroché au fait que Jésus, oui, est l'unique. Mais pour cela, ça exige que nous sachions pourquoi Jésus a une valeur particulière, pourquoi son œuvre est unique. Nous pouvons aussi être déstabilisés, peut-être, par l'apparente insignifiance de ce qui fonde notre foi. Quoi ? Tu fondes toute ta foi sur un événement unique, arrivé il y a si longtemps. Mais mille choses se sont passées depuis. Tout a évolué, on vit dans une autre ère. Et c'est une grande question pour nous aussi. Pourquoi un événement ? Pourquoi un lieu, il y a si longtemps, est tellement décisif ? C'est parce que là, dans cet événement, il y a quelqu'un qui s'est fait connaître. C'est à cause de celui qui s'est fait connaître là, de celui qui a agi là, de ce qu'il a accompli là. Et c'est cela qui fait que ce n'est pas juste un événement comme un autre, mais Dieu, celui qui était la vie, la parole véritable, est entré dans le concret de ce que nous sommes, et y compris dans le concret d'un événement particulier, la croix, la résurrection. Voyez, nous avons besoin, nous aussi, de tenir ferme ce que nous confessons. Ce qui veut dire que nous avons besoin de bien réfléchir notre foi, de savoir pourquoi nous croyons. Ça ne veut pas dire que nous avons réponse à tout, mais avoir des repères solides, bien ancrés, à partir desquels nous pouvons affronter les questions. Et l'auteur nous invite aussi ici à bien valoriser l'espérance qui se rattache à la foi que nous confessons. La foi en Jésus non seulement a de la solidité, mais elle a aussi un avenir solide, un avenir éternel, un avenir bien fondé. Tant de discours sur l'avenir manquent de consistance. L'espérance en Jésus a pour elle la force de la résurrection, de sa résurrection. Et c'est pourquoi nous sommes invités à confesser notre espérance sans fléchir. Affermissons-la donc dans notre cœur. Confessons vraiment. Maintenons ferme cette confession de nos foies, de notre foi. Réfléchissons, travaillons les fondements de notre foi. Questionnons, confrontons honnêtement. Demandons à Dieu de nous éclairer, étudions sa parole. Mais nous avons besoin de cette fermeté-là aussi pour tenir bon au milieu du relativisme ambiant et peut-être un jour s'il y a plus de pression. Tenir ferme la confession de notre foi. Deuxième impératif. Et pour cela, le Seigneur nous a donné une autre ressource, celle de la communauté chrétienne. Et le dernier impératif de notre texte sont communautaires. Verset 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, ne désertons pas notre rassemblement. » Dieu nous a fait la grâce de l'Église. Dieu nous a fait la grâce du peuple de Dieu. Et c'est une autre force, c'est une autre ressource pour tenir ferme. L'Église est une force pour tenir ferme par la communion qu'elle rend possible. Nous avons besoin d'être bien reliés, nous l'avons dit. La solitude, la rupture des liens est l'une des grandes vulnérabilités d'aujourd'hui. Quelqu'un qui est seul aujourd'hui dans la vie peut tomber très vite et très bas. Dieu nous a fait la grâce, non seulement de son accueil, de son libre accès, mais la grâce aussi d'une famille spirituelle, d'appartenir à un peuple. Et c'est immense, c'est un tel soutien. Tant de gens aimeraient avoir le centième de ce qui se vit en Église, en termes de relations, en termes de solidarité. Veillons donc les uns sur les autres. Ayons soin les uns des autres. Préservons aussi, pour pouvoir bien tenir ferme, ces liens dont nous avons tellement besoin. Développons des relations aimantes, des relations authentiques, des relations où nous sommes concernés les uns par les autres. C'est ce qui nous est demandé en disant « Veillons les uns sur les autres ». Manifestons-les par la prière, par l'entraide, par le souci fraternel, par les attentions, par les initiatives. Vous aurez remarqué que l'auteur demande à chacun d'adopter ses attitudes. Veillons les uns sur les autres. Il ne s'agit pas d'attendre que cela se fasse. Chacun, pour notre part, sommes invités à entrer dans la démarche. Mais ayons à cœur de préserver cette force de communion qu'est l'Église. C'est une vraie force. Mais l'Église est aussi une force d'encouragement. Exhortons-nous mutuellement, nous dit le texte. Encourageons-nous mutuellement, est-il dit au verset 25. Ces exhortations, nous les recevons par la parole de Dieu, lorsque nous la recevons ensemble. Elles nous conduisent vraiment à aller plus loin. Et il faut dire vraiment combien l'Église, par la prédication de la parole, a cette fonction, ce rôle de nous pousser plus loin que ce que nous ferions tout seuls, de nous donner des ressources que nous n'aurions pas en restant chacun dans notre coin. Et c'est pourquoi l'auteur demande instamment de ne pas déserter les rassemblements de l'Église. C'est un affermissement dont nous avons besoin. Être régulièrement présent, venir le dimanche, venir en semaine, nous nourrir de la parole de Dieu dans la communion fraternelle, dans la prière ensemble. Oui, nous en avons besoin pour tenir ferme. Mais l'Église favorise aussi toute une dynamique de vie chrétienne. Exhortons-nous mutuellement, encourageons-nous mutuellement. Ça se fait aussi dans le service concret. Dans l'Église, nous trouvons des lieux où nous pouvons servir, où nous pouvons mettre notre foi en action. Dans l'Église, nous découvrons parfois des exemples de frères et de sœurs qui nous font vraiment réfléchir, qui nous bousculent vraiment, et ça nous porte plus loin. Dans l'Église, nous pouvons rencontrer des partenaires de prière, d'engagement, de soutien et d'action. Alors bien sûr, nous serons appelés aussi à mettre notre foi en œuvre partout, dans toutes nos relations à l'extérieur de l'Église, mais l'Église est appelée à devenir aussi ce lieu qui nous pousse plus loin dans le service, qui nous pousse plus loin dans l'action, qui nous fait aller plus loin. Certains, quand ils ne se sentent pas trop forts ou pas trop bien, ont un peu le réflexe de s'isoler. C'est juste le mauvais calcul. Dieu nous a donné l'Église pour nous aider à tenir, pour nous aider à tenir ferme. Mais cela suppose aussi que nous soyons accueillants et que nous développions un vrai souci les uns des autres. Alors, quelles ressources pour tenir ferme ? Elles existent, ces ressources. Prenons courage. Nous avons ce libre accès auprès de Dieu. Nous avons Jésus, notre garant, notre soutien, notre sauveur. Mais fort de cela, approchons-nous de Dieu. Vivons vraiment cette approche du Seigneur. Affermissons l'espérance que nous confessons et fondons-nous vraiment dans cette espérance. Et saisissons les ressources de la communauté que Dieu nous donne. La fermeté et la persévérance se construisent pas à pas dans des affermissements diversifiés en utilisant toutes les ressources que nous donne le Seigneur. Oui, nous avons besoin de persévérance, comme le disait l'auteur à ses destinataires, mais il ajoute aussi « Celui qui a fait la promesse est fidèle ». Et ma prière, c'est que nous vivions les uns les autres de cette fidélité et que nous puisions toutes les ressources dont nous avons besoin. Amen.